Les matins de France Culture. Guillaume Erner.
La rentrée aura été riche sur le plan mémoriel. Si le président crée récemment la polémique en reconnaissant la torture en Algérie et la responsabilité de la France dans la mort de Maurice Audin, il a également promu des harkis à la Légion d'honneur. La guerre d'Algérie, événement historique particulièrement clivant encore, malgré un demi-siècle, reste donc au cœur des débats politiques contemporains. Par ailleurs, l'annonce de la mise en chantier d'un musée mémorial à la mémoire des victimes du terrorisme invite à s'interroger sur les mécanismes de construction des politiques mémorielles et sur leur réception dans les différentes couches de la société. Bonjour Christophe Prochasson.
Bonjour.
Vous êtes historien, président de l'EHESS. À côté de vous, une sociologue de la mémoire au CNRS, Sarah Gainsburger. Bonjour. Sarah Gainsburger, vous avez notamment publié « Mémoire vive, chronique d'un quartier Bataclan 2015-2016 » et c'est aux éditions Anamosa. Et si j'ouvre l'humanité aujourd'hui, je vois un entretien avec la veuve du dessinateur Tinius. Tinius a été assassiné lors de l'attentat contre Charlie Hebdo. Et Chloé Verlac, la veuve donc de ce dessinateur, dit qu'il s'agit d'une bêtise, un musée mémoriel. Vous, qu'en pensez-vous ?
Alors, une bêtise, c'est pas vraiment à moi de juger de la valabilité du projet, mais ce que je peux faire, c'est le mettre en perspective du point de vue des recherches qui existent justement sur la mémorialisation des attentats. La question et l'exemple que vous donnez, la première question, c'est un musée pour qui ? Musée pour quoi ? Donc, la première réponse évidente, ce serait par exemple pour les victimes. Or, le projet de musée qui a été évoqué, ce serait un musée national situé à Paris. Et pour ceux qui ont étudié un petit peu le rapport aux attentats, les messages laissés sur les lieux des attentats, etc., on se rend compte que le plus important pour les gens, c'est la localisation. C'est-à-dire que ce soit des attentats qui se sont passés là, à Nice, par exemple, je suis Paris, je suis Nice. Donc cet aspect-là, l'aspect de la ville où ils se sont passés, des lieux où ils se sont passés, c'est primordial. Donc déjà, on voit le premier problème, c'est que comment dès lors choisir un seul lieu qui rassemblerait la mémoire de tous les attentats ? Et qui parle au nom de toutes les victimes. La deuxième question, c'est le discours présidentiel et le projet qu'il a inspiré entend tirer les leçons des attentats. Mais alors ça, d'un point de vue politique, ça me semble un petit peu complexe, puisque quelles sont les leçons politiques des attentats ? Elles n'ont pas encore vraiment été tirées, et surtout, elles ne sont pas du tout consensuelles aujourd'hui. Et là, si on regarde un peu à l'international, on se rend compte que Londres ou Madrid, et l'Angleterre et l'Espagne, qui ont connu des vagues d'attentats également, à ce jour, n'ont pas créé de musée. Pour la même raison, c'est qu'il est difficile d'avoir un récit commun de ces événements.
Mais le voulait-il ?
Non, alors il n'y a pas eu de projet de musée mémoriel. Pourtant, la catégorie même de musée mémoriel est aujourd'hui très diffusée à l'international. On l'a créé pour toutes les périodes, tous les thèmes. Par exemple, en Amérique du Sud, il y a énormément de musées mémoriaux sur les dictatures sud-américaines. Non, elles ne l'ont pas voulu. Et c'est vrai qu'en France, la catégorie de musée mémorial est une catégorie très importante, qui s'est développée de manière exponentielle ces dernières années.
Comment a-t-elle débuté, cette catégorie ? Avec quel type de lieu de mémoire, ou plutôt de musée ? Parce qu'un lieu de mémoire, ça n'est pas un musée mémoriel.
Alors, le développement de cette catégorie a été la plus importante pour ce qui concerne la Seconde Guerre mondiale, et notamment le génocide des Juifs. Et le rapport en question qui inspire le discours présidentiel fait état de visites de ces lieux qui sont tous des musées mémoriaux liés à l'Holocauste. La différence, c'est que il y a un grand recul temporel par rapport à l'événement, que souvent ces projets de musées qui aujourd'hui sont des projets nationaux ont été portés dans un premier temps par des associations de victimes, des associations de personnes concernées. C'est dans un second temps que l'État s'est soit réapproprié le projet, soit s'y associé d'une façon ou d'une autre. Et là, la temporalité est complètement inversée. C'est l'État qui serait premier. Et c'est la centralité parisienne qui serait première.
Mais alors, on songe aussi, par exemple, à ce qui a été fait aux États-Unis à Ground Zero, à la place des deux tours jumelles. Votre point de vue, justement, sur la manière dont l'Amérique, New York, puisque là aussi, c'est très localisé dans le symbole, alors qu'il y a eu d'autres victimes ailleurs qu'à New York dans ces mêmes attentats.
Alors, c'est précisément le modèle du 11 septembre qui inspire le projet actuel de musée mémorial pour la France. Il y a des grandes différences. D'abord, une unité de temps, c'est le 11 septembre. Même s'il y a plusieurs lieux, chaque lieu a son petit musée. Et le 11 septembre, clairement, se présente comme le musée de New York, donc du 11 septembre à New York. Donc ça, c'est la première différence. La deuxième différence, très importante, c'est que les tours ont été détruites. Donc il fallait reconstruire quelque chose sur ces tours. Il y avait un problème d'urbain, si vous voulez, de politique urbaine. Il fallait reconstruire quelque chose, le remplacer. Or, c'est pas le cas à Paris. Le Bataclan, ce qui est le lieu qui a le plus été impacté, a été repeint, réparé, réouvert.
Vous racontez ça d'ailleurs dans Mémoire vive, Sarah Gainsburger. Votre point de vue, Christophe Prochasson, en tant qu'historien ayant également travaillé auprès du président Hollande, avec un rôle donc de marier la politique et l'histoire, puisque c'était votre rôle à ses côtés.
Pas tout à fait, Guillaume Herner. Mon rôle était plus de conseiller le président de la République à l'époque sur les questions d'éducation, d'enseignement supérieur, de recherche.
Vous n'avez jamais discuté de mémoire avec lui ?
Si, bien sûr, et d'histoire aussi. Mais sur ce point-là, je voudrais prolonger un peu les réflexions de Sarah Gainsburger à l'instant. Il me semble qu'on peut avoir un avis favorable ou défavorable. Les Français adorent ce genre de polémique. Mais ce qu'il me semble problématique dans la création d'un musée, c'est que, hélas, l'événement n'est peut-être pas clos. Malheureusement, à l'inverse d'un événement comme le 11 septembre, il n'est pas certain que les attentats soient aujourd'hui derrière nous. Et en conséquence, on serait peut-être là allé à l'encontre de l'idée d'un musée qui est aussi fait pour clore, en quelque sorte, une séquence historique. Par ailleurs, je crois que la question des victimes, des familles des victimes, ne doit pas être négligée, repoussée d'un revers de la main. Mais ce qu'il y a de certain, on a trouvé des formules, puisque vous me sollicitez sur les mois que j'ai pu passer aux côtés de l'ancien président de la République. On s'était posé cette question, de savoir comment commémorer notamment la première année. Et les débats étaient assez riches entre ceux qui pensaient qu'il fallait être prudent et discret dans cette première année de commémoration afin de ne pas en quelque sorte susciter une publicité excessive aussi à ceux qui menaient ces attentats, et puis ceux qui, évidemment, souhaitaient, non pas réveiller, mais entretenir la mémoire des victimes. Et ça peut se faire autrement que par un musée, me semble-t-il.
Plusieurs musées. Hier, par exemple, il y avait dans le JDD une tribune pour que ce musée soit à Nice. Tout à l'heure, on évoquait le fait qu'il pouvait être à Paris. Bref, on voit immédiatement qu'il y a une question qui se pose sur sa localisation. Est-ce que finalement, des lieux de mémoire, ça n'est pas mieux? Comment les distinguer, d'ailleurs, Christophe Prochasson?
Écoutez, si vous me remettez sur la piste du musée, effectivement, vous posez bien la question, c'est-à-dire célèbre-t-on, enfin du moins commémore-t-on ou mettons-nous en mémoire un événement, un lieu, un massacre précis dans un lieu précis, ou bien est-ce que on essaye de contribuer, parce que c'est le rôle aussi d'un musée, de comprendre ce qui s'est passé, et dans ce cas-là, le lieu est d'une certaine façon assez indifférent. Je pense que, si vous me demandez ma préférence, il me semblerait que dans les villes soit marqué, en fait, la présence de ces attentats, le passé de ces attentats, par des dispositifs symboliques en quelque sorte, marqueraient le respect que nous devons à ces victimes.
Mais alors, c'est toujours en fait la même chose qui se pose aux politiques. Ou bien, donc, on se contente de mettre des plaques, puisqu'il y a eu aussi toute une politique à l'écart de ces plaques.
Ou des monuments.
Poser, ou d'autres, effectivement, d'autres mémoires vives ou mémoires, effectivement, exprimées au travers de différents types de dispositifs. Et dans ce cas-là, on peut reprocher aux politiques de ne servir qu'à mettre des plaques dans ce rapport au passé-là, sachant que le terrorisme est, comme vous l'avez dit, une parenthèse qui n'est peut-être pas refermée. Christophe Prochasson, comment le politique se saisit-il de ces ambiguïtés, de cette problématique-là ?
Écoutez, Guillaume Herner, le politique fait de la politique par définition. C'est-à-dire qu'il agit certainement moins en fonction du respect de la vérité historique, bien qu'il en ait souci, je ne le conteste pas, ou même de la souffrance ou de la douleur des acteurs que d'intérêts qui lui sont propres et qui sont l'unité de la nation, sa popularité, sa sa mise en écho de ce qu'il ressent de la société. C'est ça les objectifs du politique. C'est pour ça que nos
points de vue... Il a quand même une petite éthique de conviction, ce politique.
Probablement, mais tout cela fonctionne du même pas. Et je ne suis pas sûr que l'éthique de la conviction, comme vous le dites, soit forcément moteur dans ce genre d'affaires dont nous parlons aujourd'hui.
Vous êtes très désabusé après votre passage en politique.
Nullement désabusé. Tout simplement, le politique a une logique propre aussi, qui fait que les ressorts de son action, de sa décision, mêlent des intérêts, des passions et des idées, ce que vous appelez des convictions. Et que cet équilibre en ces trois grands mobiles de l'action politique sont divers en fonction des périodes et des buts visés.
Sarah Gainsburger, votre point de vue.
Alors pour ce qui est des plaques, justement, si on s'intéresse à la question des associations de victimes, elles ont quand même envie de raconter leur histoire, les différentes victimes. Et elles sont différentes, c'est ça le premier problème. Et elles ont même, par exemple, pour ce qui est du 13 novembre, qui est censé être un événement unique, elles ont des récits très différents. Entre un parent qui a perdu son enfant à une terrasse et un survivant du Bataclan, le récit et ce qu'on veut raconter de cette expérience n'a juste rien à voir. Et pour avoir eu la chance d'échanger avec elle sur ces questions, ça se pose très concrètement. Qu'est-ce qu'il faut ? Un monument au Père Lachaise, par exemple ? Oui, c'est vrai pour les personnes qui sont décédées, mais pour celles qui ont survécu, c'est pas du tout ce qu'elles voudraient. Donc ces questions-là sont fondamentales.
Et oui, parce que justement, même dans la catégorie de victimes, dans cette interview donc de la veuve de Tinius, l'un des dessinateurs assassinés le 7 janvier 2015 à Charlie Hebdo, eh bien cette veuve dit nous n'étions plus victimes du terrorisme. C'est ça en fait qu'elle reproche à l'État, le fait de ne pas être considérée aujourd'hui comme une victime. Et on voit bien le caractère problématique du terme de victime.
Donc, justement, sur cette question de victime, c'est un très bon exemple pour développer ce que disait Christophe Rochasson sur la question du politique. Donc, pour moi, le politique n'est pas seulement le politique politicien, il est politique en ce qu'il crée des catégories qui ont un effet sur la société. Et le principal impact de ces politiques de mémoire, c'est de dessiner qui est la bonne et qui est la mauvaise victime. Ça a été particulièrement bien montré par Sandrine Lefranc dans ses travaux sur les commissions Vérité et Réconciliation. Cette question-là, c'est central de savoir qui va être la bonne victime, qui va être celle qui va correspondre à l'attente de l'État et qui va être la mauvaise victime.
Et alors qui, par exemple ?
Ah ben ça, c'est, je ne me permettrai jamais de faire ce type de différence.
Ce que vous avez observé dans les différents cas que vous avez étudiés, qui peut constituer aujourd'hui une bonne victime dans des mémoriaux qui ont été faits pour des victimes passées?
Ça, par exemple, ça fait un lien avec la question de la guerre d'Algérie. Dans la logique de ces processus, la bonne victime, c'est notamment celle qui accepte le pardon, qui accepte que l'autre connaisse sa faute. La mauvaise victime, c'est celle qui, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, quoi qu'on indemnise, dira toujours « moi, je souffre, je souffrirai toujours et jamais je ne vous pardonnerai », par exemple.
Christophe Prochasson, puisque vous nous avez dit tout à l'heure que finalement, cette affaire, elle était politique. Selon vous, quelle politique vise Emmanuel Macron dans ces musées des victimes du terrorisme? Quelle est sa logique, sa stratégie, peut-être même ses arrière-pensées politiques?
Alors, c'est bien difficile à dire, évidemment, mais on peut faire un certain nombre de suppositions. Il me semble que depuis quelques décennies déjà, le rapport à la mémoire des hommes politiques et des au plus haut niveau vise plutôt à la réconciliation, à la pacification. On le voit en cohérence, je crois, avec ce qui est en train de se passer sur la guerre d'Algérie, précisément. Et il me semble que visée mémorielle chez Emmanuel Macron relève de cette logique-là. Ce qui est une rupture aussi avec l'hystérisation mémorielle à laquelle avait conduit un peu le discours de Nicolas Sarkozy, en général sur les questions de mémoire, d'appropriation, notamment mémorielle qui lui était contestée, de montée en puissance aussi d'un certain discours historique qui a fait que on lui est rentré un peu dedans sur toutes ces questions. Et je crois
que Nicolas Sarkozy avait entamé, il faut peut-être le rappeler, une politique mémorielle en faisant lire par exemple la lettre de Guy Moquet.
La lettre de Guy Moquet, l'affaire aussi de l'adoption, il avait proposé que des enfants des écoles adoptent des enfants victimes de la déportation, de la Shoah. Tout un ensemble de pratiques.
Le musée
d'histoire de France, oui Sarah, j'avais oublié cet élément. Donc vraiment une instrumentation de l'histoire très, très, très vive, très forte et clivante. Qui se reposait sur des choix...
Qui moquait ou la mémoire d'enfants déportés, ça n'est pas clivant.
Non, mais la geste était clivante. Et donc, de ce point de vue-là, cette instrumentation de l'histoire avait été très contestée. On est revenu, à mon avis, là-dessus. Le président Hollande a eu beaucoup, c'est une de ses formules, d'ailleurs, souhaité la réconciliation, la paix des mémoires. Et je crois que, de ce point de vue, là aussi, Emmanuel Macron est dans cette lignée-là.
Mais la réconciliation des mémoires, ce que vous appelez ainsi, Christophe Prochasson, c'est aussi une manière pour le politique de fabriquer du consensus, le consensus lui étant toujours profitable. Et d'ailleurs, si l'on suit les codes de popularité de François Hollande, malheureusement, enfin, je ne sais pas quel terme employer, mais en tout cas, on voit bien que les périodes terribles, notamment du 13 novembre 2015, ont été des périodes où les critiques se sont tues par rapport à sa politique.
Très provisoirement, en réalité. Hein. Il a peut bénéficier de sa politique de gestion des attentats terroristes qui ont sans doute fortement ébranlé son quinquennat. Mais son rapport à l'histoire était justement à l'inverse, d'une certaine façon, de cet ébranlement-là.
Sarah Gainsbourger.
Oui, donc cette question de l'apaisement, elle est importante, je pense, pour la période contemporaine. Surtout si on se rappelle le lien entre la pensée de Paul Ricoeur et celle d'Emmanuel Macron. Donc dans la théorie de Paul Ricoeur, il y a tout un travail sur la mémoire et c'est la notion de juste mémoire. C'est-à-dire que je pense que vraiment, il a une vision contractuelle de la mémoire, le président actuel. Il pense qu'en faisant ce qui est relativement juste, on va finir par se mettre d'accord sur la vision du passé. Ce qui est tout à fait contraire à ce que je pense. Mais c'est vraiment cette logique-là.
C'est-à-dire,
il y a une juste
une
mémoire.
Une vision contractuelle, parce que inhabituel de présenter la mémoire ou l'histoire sous forme de contrat.
C'est-à-dire, c'est l'idée que si les coupables reconnaissent leur faute, que les victimes acceptent ce pardon des coupables, on va construire ensemble une mémoire qui sera consensuel justement, qui sera juste. On sait, pour avoir étudié en détail un certain nombre d'études de cas en France comme ailleurs, encore une fois, je pense qu'il faut se décentrer parfois du cas français parce que c'est vraiment pas un cas qui est tant atypique que ça. On se rend compte que ce processus de juste mémoire ne marche pas forcément comme il devrait.
Pourquoi ?
Parce que la mémoire n'existe pas en tant que telle. Les gens qui la portent sont des gens qui sont inscrits dans des rapports sociaux aujourd'hui et pas dans le passé. Ça paraît finalement assez trivial de le dire, mais c'est le plus important à comprendre. Et que ces rapports sociaux aujourd'hui, ils sont comme tout rapport social, hiérarchique, inégaux, de domination, etc.
Sarah Gainsbourger, Mémoire vive, chronique d'un quartier, Bataclan 2015-2016 aux éditions Anna Mosa, et Christophe Prochasson, historien et président de l'EHESS. On vous retrouve dans une vingtaine de minutes pour continuer à évoquer la mémoire, cette fois-ci la mémoire des victimes, de toutes les victimes de la guerre d'Algérie, suite à la fois à la reconnaissance de la mort de Maurice Audin et puis à ses harkis promus à la Légion d'honneur vendredi dernier. Et on va évoquer avec nos deux invités, une sociologue Sarah Gainsbourger et Christophe Prochasson, la manière justement dont la mémoire vit, mais aussi la mémoire des polémiques passées, puisque finalement, ça n'est pas la première fois aussi qu'en France, on s'échange des noms d'oiseaux. Par exemple, Sarah Gainsbourger, vous qui avez notamment travaillé sur les périodes noires de la France, sur l'utilisation de l'histoire, de la mémoire de France, un mot peut-être sur Éric Zemmour.
Alors, je pense que Éric Zemmour s'inscrit clairement dans une lignée de personnes qui utilisent le passé pour disqualifier un certain nombre de nos concitoyens. En même temps, il dit aussi quelque chose sur notre époque qui fait écho à ce qu'on disait tout à l'heure. Aujourd'hui, le passé, la mémoire est devenu de plus en plus un des langages du politique. Le développement de ces politiques de mémoire a non seulement eu des effets sur les représentations du passé, sans doute, mais principalement, elle a eu pour effet de développer tout un champ d'intéressement, tout un espace où finalement, pour avoir une intervention politique, parler du passé, parler de la mémoire devient presque une obligation. On voit, bon, ça je l'ai étudié par ailleurs, que de plus en plus d'associations qui, jadis, par exemple, voulaient prôner l'égalité pour les personnes issues de l'immigration, maintenant se transforment et le prônent à travers la revendication d'une mémoire de l'immigration. C'est pas forcément elles, dans leur petit fort intérieur d'association, qui ont décidé d'évoluer, mais c'est aussi parce que l'État, en s'investissant justement de plus en plus dans les musées mémoriaux, dans les journées de commémoration, dans cette question de la mémoire, rend ça plus pertinent et plus, en fait, utile d'un point de vue de ressources sociales.
Christophe Prochasson, parce que ça n'est pas nouveau que la République... Vous vouliez rebondir sur le mot République ?
J'allais poursuivre dans votre direction et celle de Sarah Gainsbourg. En effet, il y a des usages sociaux et politiques de la mémoire et de l'histoire. Bon, on confond un petit peu les deux là, mais on a raison de le faire, qui sont très anciens. Mais
la question est de savoir. Vous pouvez les distinguer si vous le souhaitez.
C'est-à-dire qu'il y a plusieurs, à mon avis, usages sociaux. On voit bien que là, on est dans une nouvelle phase. Au fond, pour un homme politique ou pour des acteurs sociaux, la mémoire ou l'histoire, ça sert à réparer, ça sert à identifier, ça sert aussi à exister. Et d'une certaine façon, parfois aussi, d'ailleurs Marc Bloch s'en flattait, ça sert à divertir. Ce sont ces fonctions-là qui sont souvent mises en avant, au détriment d'une, me semble-t-il, et c'est cela qui est inquiétant aujourd'hui, c'est la fonction proprement critique de l'histoire, c'est-à-dire comment l'histoire sert à fabriquer des citoyens disposant d'une maturité démocratique. Et c'est ce volet-là qui est peut-être aujourd'hui un peu écarté au profit des autres fonctions.
Pourquoi ?
Notamment celle de l'identification et de la réparation.
Pourquoi ?
Ah, alors pourquoi il y a sans doute beaucoup de choses, et évidemment il y a un mot magique qu'on utilise de façon abusive mais auquel je voudrais recourir, c'est ce qu'a fort bien décrit François Hartog sous le nom de présentisme, c'est-à-dire cette espèce de soumission du passé à l'ordre du présent, qui fait que aujourd'hui dans ce moment dans lequel nous sommes, dit souvent de crise du futur, de dissipation, de cette capacité à nous projeter dans le futur, nous n'avons plus que le passé en quelque sorte en stock et un passé soumis seulement à l'ordre du présent. Je pense que cette mutation-là est importante. Et puis il y a aussi sans doute des raisons générationnelles. Et pour le président de la République, je pense que c'est important de le noter. Il est évident que quelqu'un qui est né en 1977, donc très 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 longtemps après la Deuxième Guerre mondiale, comme Emmanuel Macron, ne peut pas avoir le même rapport à l'histoire que celui qu'avait, par exemple, François Mitterrand ou même d'ailleurs Jacques Chirac.
Ça veut dire qu'il n'a pas le sens du tragique ?
Alors c'est un mot qu'on utilise aussi, qui décrit sans doute beaucoup de choses. Peut-être peut-on le dire ainsi. Mais il y a longtemps que les présidents de la République, pour des raisons générationnelles, ont sans doute perdu le sens du tragique. Jacques Chirac, en 1934, il a connu encore, enfant en tout cas, la Deuxième Guerre mondiale. Mais ni Nicolas Sarkozy, son successeur, ni François Hollande, né dans les années 50, n'avaient été imprégnés par ce que vous appelez ce sens du tragique, c'est-à-dire...
Mais c'est un terme impropre selon vous ?
Non, pas impropre, mais peut-être un peu facile dans ce qu'il peut englober beaucoup de choses différentes. Le rapport au tragique, c'est-à-dire l'idée que l'histoire est faite de conflits, de bruit et de fureur, pour employer une image, de guerre, de révolution, et qu'elle ne peut pas se dérouler sur un régime pacifié où tout se mettrait dans l'ordre souhaité.
Sarah Gainsbourg.
Si je peux juste prolonger, je pense que pour ce qui est d'Emmanuel Macron, c'est beaucoup plus large que la question de l'histoire et beaucoup plus large que la question de la génération. Il a aussi, sociologiquement, dans la façon dont il a été, là d'où il vient, Parce que je pense qu'il y a des gens aujourd'hui de sa génération qui ont le sens du tragique, du fait de leur vie aujourd'hui. Parce qu'il y a des choses aussi plus ou moins complexes dans, dans la trajectoire des gens.
Qu'est-ce que vous voulez dire?
Bah, les inégalités sociales, les milieux où on est éduqué, le type d'école où on va, la difficulté de l'accès au travail.
Excusez-moi, on ne peut pas mettre tout à fait sur le même plan la souffrance sociale qu'on éprouve effectivement dans l'inégalité et un rapport à l'histoire particulier qui est qu'on est pris dans un bain.
Non, mais je ne mets pas sur le même plan. J'ajoute un élément pour dire que cette vision-là, non tragique, parlons rapidement en utilisant ce terme, elle va au-delà de la question de l'histoire pour ce qu'est Emmanuel Macron. C'est aussi sa façon de gérer la société dans son ensemble. Il y a toujours une solution, c'est cette approche que je disais tout à l'heure contractuelle de finalement, on va aller vers le progrès. Pour ça, il est presque un petit peu en rupture avec le présentisme, même s'il met le passé en avant. Il a aussi une façon de se projeter vers l'avenir qui est un petit peu plus dynamique que ses prédécesseurs, puisque lui, il croit en une forme de progrès.
Et cependant, Emmanuel Macron, on n'oublie pas l'histoire, loin s'en faut. On va écouter deux prises de parole du président de la République. La première, tout d'abord, c'était durant la campagne présidentielle, c'était sur une chaîne de télévision algérienne le 15 février 2017.
La colonisation fait partie de l'histoire française. C'est un crime. C'est un crime contre l'humanité. C'est une vraie barbarie. Et ça fait partie de ce passé que nous devons regarder en face en présentant aussi nos excuses à l'égard de celles et ceux vers lesquels nous avons commis ces gestes. En même temps, il ne faut pas balayer tout ce passé. Et je ne regrette pas cela parce qu'il y a une jolie formule qui vaut pour l'Algérie. La France a installé les droits de l'homme en Algérie. Simplement, elle a oublié de les lire. Mais en même temps, je ne veux pas qu'on tombe, tout en reconnaissant ce crime, dans la culture de la culpabilisation sur laquelle on ne construit rien. Vous voyez, c'est ce chemin de crête que je veux que nous prenions ensemble.
Et puis un deuxième extrait d'un discours d'Emmanuel Macron, mais alors cette fois-ci président de la République, c'était le 13 septembre dernier, lorsqu'il rendait visite à la veuve de Maurice Audin, Josette Audin.
D'abord, quand je l'ai découverte, cette histoire, en arrivant, elle m'a ému parce que c'est le cas typique d'une injustice. Mmh. Et donc c'est aussi pour ça que dans la déclaration il y a des choses qui vont au-delà, mais je ne voudrais pas qu'on enlève la part irréductible de ce combat. Je ne sais pas où nous mène ce chemin, mais je sais que si on ne l'emprunte pas, par peur ou par réticence ou autre, on restera bloqué dans les incompréhensions actuelles, les ressentiments, les secrets. Comme je le disais, même pour les nouvelles générations, c'est fou de voir la place que prend la guerre d'Algérie et ses mémoires fracassées. Et puis, il y a une page aussi qui s'ouvre aujourd'hui. Ça a été évoqué par plusieurs d'entre vous et elle n'enlève rien à la part irréductible de votre combat. Mais la page qui s'ouvre, c'est l'ouverture de toutes ces archives. Ça va être le travail libéré des historiennes et des historiens. Ça va être, je l'espère, une nouvelle ère pour nos mémoires et nos histoires avec l'Algérie et beaucoup d'autres. Et ça va être en effet ces paroles qui vont pouvoir se libérer au-delà des archives.
Le point de vue d'un historien, Christophe Rochasson.
Oh là là, il y a beaucoup de choses à dire sur ces deux extraits. Sur le Macron candidat, on voit bien que il tente de faire cohabiter, comme on doit le faire d'ailleurs, la diversité des mémoires et la complexité et souligne la complexité des phénomènes. Mais c'est plutôt dans le deuxième extrait, sur le deuxième extrait, que il y aurait des choses à dire. D'abord, il faut saluer cette prise des décisions qui s'inscrit, et je suis un ancien élève de Madeleine Robert-Hugues, je vois à quel...
Dont il faut rappeler...
Madeleine Robert-Hugues est une historienne du mouvement ouvrier qui s'était beaucoup battue avec Pierre Vidal-Naquet non plus, qu'il faut aussi citer ici, pour la reconnaissance de l'assassinat de Maurice Audin, et qui avait l'un et l'autre beaucoup œuvré pour une histoire de la guerre d'Algérie qui fut libérée d'un certain nombre d'entraves. Donc ça, c'est une chose importante. Mais une fois qu'on a dit ça, on peut souligner un certain nombre de traits qui me paraissent extrêmement contemporains dans ce rapport à l'histoire. D'abord, on le voit, la dimension émotionnelle Emmanuel Macron le dit chez Josette Audin, qu'il est très ému. Et donc, il s'agit là, en effet, d'entretenir avec l'histoire un lien charnel. Je pense que cela mérite d'être souligné. Ça n'a pas toujours été le cas dans le rapport que les hommes politiques entretiennent à l'histoire. On n'a pas la science de l'histoire ou le miroir, en quelque sorte, des rois comme une science qui permettait d'avancer vers le futur. La deuxième chose qui me paraît aussi tout à fait intéressante, c'est que c'est un cas individuel. C'est une histoire que l'on peut raconter autour d'une personne incarnée qui, a, en quelque sorte, à elle seule, résume toute une destinée historique. Et ce point d'entrée aussi dans l'histoire me paraît, disons, très correspondre à ce que j'évoquais tout à l'heure sous le nom de présentisme, c'est-à-dire à la fois, en quelque sorte, du traumatique, de l'individuel et d'une histoire que l'on rend présente pour être compréhensible. Alors il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, mais c'est cela qui me frappe. Enfin, dernière chose que je voudrais dire, les historiens ont déjà beaucoup travaillé sur la guerre d'Algérie et les archives, certes, non pas dans leur entièreté, mais sont en partie ouvertes. Il faut le rappeler. Je me réjouis comme historien de voir un pas supplémentaire de franchi. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, je suis tout à fait frappé. Sarah Gainsbourg-Jay me faisait remarquer tout à l'heure qu'il n'y avait pas que la dimension générationnelle, et elle avait raison, la dimension sociale. Il y a aussi une dimension politique. Il est tout à fait frappant de voir que, au fond, la famille socialiste a eu quelques difficultés dans le rapport à ce passé. Évidemment, François Mitterrand, pour des raisons que l'on comprend, et Lionel Jospin, qui avait pourtant fait un pas dans cette direction en reconnaissant la guerre d'Algérie comme une véritable guerre, n'était pas allé aussi loin qu'Emmanuel Macron. Et c'est un point, je crois, qui mériterait quelques commentaires.
Sarah Gainsbourg-Jay. Est-ce qu'il y a justement, maintenant que le travail historique a été fait et qu'il y a donc une nouvelle page de cette mémoire de la guerre d'Algérie qui est en train de s'écrire, une possibilité d'obtenir un consensus, puisque vous évoquiez tout à l'heure justement une conception contractuelle de l'histoire, l'idée selon laquelle pour Emmanuel Macron, il pouvait y avoir un consensus sur les faits. On voit bien que pour la guerre d'Algérie, c'est largement hors d'atteinte.
Ça, je pense que c'est le début du processus. Je pense qu'on en est encore loin. Parce que entre la déclaration, que évidemment moi aussi je salue, et les déclarations sur la prise en charge par l'État des harkis, il y a eu beaucoup de réactions aussi négatives d'autres bords de cette histoire de la guerre d'Algérie. Et c'est un début. Et ça, c'est encore à construire. Je pense que le président a l'air bien engagé sur cette question-là. Je voudrais encore une fois le resituer plus largement. Donc là, il le fait pour ce qui est de la guerre d'Algérie. Mais c'est plus global dans son approche. Par exemple, il s'est aussi engagé tout ce qui est le rapport avec les États africains pour la restitution des œuvres prises dans les pays africains au temps de la colonisation. Donc lui, vraiment, il a l'air d'être dans une démarche de vouloir faire un peu les comptes de l'histoire pour avancer sur des nouvelles bases. Et la guerre d'Algérie, c'est visiblement un peu le modèle qu'il a l'air de vouloir développer sur ce point.
Mais alors, il y a eu effectivement un certain nombre de réactions qui étaient plutôt des réactions positives à la déclaration d'Emmanuel Macron vis-à-vis donc de Maurice Audin. J'en ai une sous les yeux qui n'est pas une réaction positive et qui vient d'une intellectuelle algérienne, Vassila Tamzali. Elle écrit dans El Watan un article pour dire finalement que c'est un geste amputé, et je vais la citer, c'est un geste amputé parce que dans le discours d'Emmanuel Macron, pas une fois le mot colonialisme n'a été prononcé, c'est lui seul, selon elle, qui peut expliquer la guerre d'Algérie, et le système arrestation-détention, lui non plus, n'a pas été mentionné. Alors est-ce qu'on peut dire que cette reconnaissance n'est que partielle ? Qu'en pensez-vous, Christophe Prochasson ?
Écoutez, Emmanuel Macron, vous l'avez cité dans l'extrait de tout à l'heure, avait eu à l'égard du colonialisme des propos d'une grande sévérité, d'ailleurs peut-être même un peu excessif ou inadapté en tout cas à la description du colonialisme, même si on pouvait en partager le ressort politique. Donc je ne crois pas qu'on puisse s'engager sur ce procès-là. Il me semble un peu déplacé dans la mesure même où cet effort est fait en direction de la vérité historique. Il faut tout de même le rappeler. Mais il y a un point, si vous me permettez, qui mérite aussi là d'être souligné. Je crois que ce discours, qui est aussi un acte, s'inscrit sans doute dans l'histoire longue qu'il faudra restituer ultérieurement des relations entre Emmanuel Macron et l'armée. Je pense que on a là un président de la République qui dessine un rapport assez particulier et qui
c'est-à-dire un rapport conflictuel.
On peut
au début en tout cas il
voilà.
L'a été.
Vous faites allusion bien sûr à ce discours prononcé la veille d'un 14 juillet devant les représentants des forces armées où il avait réaffirmé ou affirmé avec une force un peu grandiloquente son autorité sur l'armée.
Le départ de Pierre de Villiers
qui avait suivi, non pas comme une conséquence, mais sait-on jamais, ce discours. Et puis maintenant, une prise de position qui va tout de même à l'encontre d'une autre mémoire, qui est celle de l'armée, et qui ne doit pas être véritablement appréciée dans l'armée ou dans les écoles militaires, peut-être, où on enseigne une certaine forme, une certaine histoire. Donc, je crois qu'il faut avoir ça en tête aussi pour apprécier justement cette déclaration.
Sarah Gainsbourger.
Pour revenir à l'article d'Al-Watan que vous avez cité, puis que vous nous avez fait lire pendant le journal.
Vous avez triché.
Nous l'avons fait.
Ce que je trouve assez intéressant, c'est la question de l'individu, puisque mon collègue disait que c'était une reconnaissance individuelle, puisqu'il parlait de Maurice Audin. Et l'article me semble vouloir aussi sortir un peu de cette logique individuelle pour être plus dans une approche systémique. Justement, c'est tout un système qu'il faudrait renier. Et elle évoque la liste d'autres personnes qui, telles Maurice Audin, se sont engagées, que ce soit des Algériens, ce que les Français appelaient à l'époque les indigènes, ou des métropolitains, des Européens d'Algérie, ou des Juifs d'Algérie qui étaient des autochtones, et qu'un certain nombre de ces personnes se sont engagées pour cette cause, et que c'est au-delà de la question d'un individu. Et là, on touche vraiment aussi à ce que je disais tout à l'heure, cette approche de la société plutôt comme une relation d'individu que comme un système.
Oui, tout à fait.
Christophe Prochasson.
Et ça, c'est un point, je crois, très important pour comprendre la nouvelle forme du discours mémoriel ou de l'usage de l'histoire fait par les hommes politiques. C'est-à-dire que l'histoire perd un peu sa fonction de grand récit qui donne du sens à l'action, je crois. Comme Guillaume Herner vous faisait allusion tout à l'heure à l'ancienneté de ce rapport à l'histoire des politiques. Mais prenons le cas de nos vieux républicains barbus, et même d'ailleurs au-delà, évidemment de Gaulle, et un peu moins Pompidou, un peu moins Giscard d'Estaing, mais évidemment Mitterrand, qui s'appuie sur l'histoire pour orienter en quelque sorte l'action. Là, on voit que l'histoire n'a plus du tout cette fonction depuis
Pourquoi
déjà. Elle a plus cette fonction, je pense, parce que d'une certaine façon, le mur de Berlin s'est effondré. C'est-à-dire que l'histoire est.
Mais François Hollande, je ne veux pas vous embêter, Christophe Prochasson, parce que vous avez travaillé
auprès de
François Hollande. Mais malgré tout, la guerre d'Algérie, c'est un événement qu'il avait en mémoire, que les hommes de cette génération ont en mémoire, j'imagine. Pourquoi est-ce Emmanuel Macron, qui lui est né après, qui prononce ce discours, qui reconnaît la torture et la mort de Maurice Audin et pas François Hollande? Alors, vous avez fourni un élément de réponse tout à l'heure. Vous avez dit les socialistes sont embarrassés avec cette question-là. Est-ce la justification unique? Est-ce qu'il y en a d'autres?
Écoutez, oui, François Hollande l'a dit lui-même d'ailleurs, qu'il avait un rapport assez fort avec la guerre d'Algérie. Votre collègue Emmanuel Laurentin avait fait une enquête il y a 5 ans auprès des candidats à la présidence de la République, et il l'avait exprimé sans d'ailleurs bien préciser quelle était la nature de ce rapport. Mais on sentait que cela était là. Alors pourquoi ne l'a-t-il pas fait? D'abord, il s'est beaucoup prononcé sur la guerre d'Algérie, fait beaucoup de discours. Il entretenait des relations assez étroites, d'ailleurs, avec Benjamin Stora. Pourquoi n'est-il pas allé au-delà? C'est une interprétation qui mériterait d'être connue, mais il faudrait lui poser la question à lui.
Oui,
d'abord.
C'est toujours compliqué mais de répondre à ce genre de questions.
Voilà, mais je n'exclus pas l'hypothèse que je soulevais tout à l'heure, c'est-à-dire que le Parti socialiste comprend des gens de différentes générations, et que même ceux qui ont connu et ont eu une action politique jeune pendant la guerre d'Algérie n'ont pas tout à fait disparu, et le poids est là.
Sarah Gainsbourger.
Sur ce point, pour ce qui est d'Emmanuel Macron, j'ai été frappée dans la discussion qu'il a eue avec la veuve de Maurice Audin, qui disent « quand je suis arrivée à l'Élysée et que j'ai découvert cette histoire ». Donc l'affaire Audin, qui est quand même une affaire qu'on ne découvre pas d'aujourd'hui. Donc c'est aussi une forme de fraîcheur par rapport à l'événement. Et surtout, je voudrais encore une fois le dire, je pense que l'approche d'Emmanuel Macron, c'est on va mettre à plat tout ce qui existe, on va clarifier, dire ce qui est bien, ce qui est mal, et ça va nous faire repartir quelque part à zéro, sur des bonnes bases, avec une forme de réconciliation autour d'une mémoire juste et
mais
de
est-ce que c'est pas ce que le gaullisme a fait vis-à-vis de la résistance en inventant le terme, à mon avis, est plutôt exact dans la mesure où l'histoire de la résistance racontée par Malraux et De Gaulle, c'est une histoire qui tient beaucoup plus au roman qu'au travail historique.
Oui, mais ça, c'est l'opposé. C'est-à-dire qu'on ne fait pas une forme de ménage pour repartir à zéro. On assoit une conception qu'on a de ce qui vient de se passer. Conception idéologique, mais l'idéologie peut avoir des bons côtés. Et c'est là-dessus qu'on va construire l'avenir.
C'est très vision, différent. Vision, là aussi, où il y a un mal, un bien, alors même que parfois les choses ont été plus complexes.
Mais justement, dans cette vision gaulliste, il y a un mal, un bien, et c'est définitif.
Et alors, chez Macron,
alors
qu'est-ce qu'il y a?
Chez Macron, il y a eu des torts qui ont été faits, et on va en discuter. C'est exactement comme dans une médiation juridique, dans ce qui relève de la justice réparatrice qu'on voit se développer aujourd'hui. On va pouvoir, en discutant ensemble, se mettre d'accord sur une lecture commune du passé, régler nos comptes et avancer vers l'avenir.
Et la conception qu'en avait Jacques Chirac, puisqu'il a été comparé donc à ce discours qu'Emmanuel Macron a tenu auprès de la veuve de Maurice Audin, le discours par exemple que Jacques Chirac avait tenu sur le Veldiv. Qu'en pensez-vous, Sarah Gainsbourger?
Alors pour ce qui est de la question de la Seconde Guerre mondiale et de la participation de l'État à la déportation des Juifs, je dirais que cette approche, c'est la même. C'est-à-dire que Jacques Chirac avait l'impression, et pas seulement avec ce discours, avec un ensemble de politiques qu'il a faites, dont par exemple, vous allez parler de la Légion d'honneur aux harkis, il a aussi décidé de faire remettre la Légion d'honneur à l'ensemble des Justes de France. Cet ensemble de politiques qu'il a eu pour ce qui est de la période de la Seconde Guerre mondiale, elle relève de la même idée. C'est-à-dire que voilà, on va tout reconnaître, on va repartir à zéro, et on va se réconcilier entre l'État et notamment la population juive de France. Mais cette vision, elle est limitée à ce passé-là. Alors que chez Emmanuel Macron, pour moi, elle est globale. C'est ce que je disais avec l'exemple des États africains. C'est une façon d'être au monde.
Oui, je crois qu'on a insisté à raison sur le caractère individuel, c'est-à-dire que l'accroche en quelque sorte par Maurice Audin, mais derrière, il y a plus. Il y a tout de même dans le discours d'Emmanuel Macron la reconnaissance d'un système qui a institué officiellement la terreur, la torture et des pratiques évidemment qui sont inacceptables. Mais je voulais juste revenir. Vous aviez l'air de vous étonner, ce qui m'étonne de vous, Guillaume Hertel, du fait que les hommes politiques disent le bien et le mal au regard de l'histoire. Je le disais tout à l'heure, ils font de la politique et ils sont obligés d'affecter de signes positifs ou négatifs un discours afin de dire quelque chose en quelque sorte. Et le rapport au passé n'est pas celui des historiens. C'est pour ça que les historiens ont un peu tort de s'instituer en correcteur de copie, en soulignant au rouge ce qui est juste et ce qui est faux. Ils ne sont pas dans la même catégorie et ils n'ont pas le même rapport au passé. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut couper les relations des uns avec les autres, mais il faut bien que chacun sache de quoi il retourne lorsque l'autre parle.
Mais il y avait là aussi, même lorsqu'on désigne le bien et le mal sur des épisodes aussi documentés que la Seconde Guerre mondiale, on voit bien par exemple comment François Mitterrand, par exemple, avec une conception qui était la sienne et qui, là pour le coup, n'était pas du tout consensuelle. C'est l'idée selon laquelle Vichy était une parenthèse. Ça, par exemple, c'était aussi une manière de refuser le bien et le mal, ou plutôt de s'arranger avec cette histoire-là, Christophe Prochasson.
Oui, de prendre en charge aussi, selon, je pense qu'il pensait prendre en charge une partie du destin des Français sur la période, c'est-à-dire de rappeler au fond tous ces petits bricolages, tous ces accommodements, comme on le dit parfois, et il pensait représenter la France aussi sous ce jour-là.
Merci Christophe Prochasson, je rappelle que vous êtes historien, que vous présidez le HESS, et merci à Sarah Gainsburger. Votre livre « Mémoire vive, chronique d'un quartier, Bataclan 2015-2016 » est publié chez Anna Mosage.